Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Got gun. Holt left slot.
Dixie left. Key left.
Mercedes. Wide chip. Ricky.
Fever left. 75. Katie. Omaha.
Quick going.
Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Ducks it up to Donnie Avery.
Yeah!
Go ahead. Goal line. Touchdown. Touchdown.
Touchdown.
Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast Draft signé Touchdown Actu, un nouveau rendez-vous pour analyser en détail le potentiel d'une des positions de la prochaine QV 2022. Et coup de projecteur aujourd'hui sur la classe de linebacker. Quelles sont les deux têtes de gondole de l'édition à venir? Qui sera brillé sur trois tentatives? Qui sera notre sleeper ou nos sleepers en l'occurrence dans une classe extrêmement profonde? Toutes ces questions qu'on se posera aujourd'hui avec mon camarade Jean-Michel Boujard. Salut Jean-Mi.
Allez, salut Greg. Bonjour à toutes, bonjour à tous.
Comme d'habitude, un plaisir de te retrouver et on continue d'aborder des positions. Il y a beaucoup, beaucoup de candidats. Alors, c'est peut-être pas comme les positions d'edge rusher et de receiver, dans le sens où on en avait parlé un petit peu à l'occasion du power ranking. Il n'y a pas énormément de choix dans le premier tour. Ça ne veut pas dire qu'il y aura des mauvais profils en ce sens. On va en parler rapidement. Après, pour le reste, c'est quand même extrêmement profond. Il y a beaucoup de bonnes affaires à faire. Et on aurait pu faire, si on avait voulu pousser le vice, on aurait pu faire 12-15 sleepers facilement sur cette émission.
Ah ouais, tout à fait. Ouais. Bon, après, ce n'est pas une surprise. Hein, la position de linebacker, c'est comme la position de coureur. C'est-à-dire que tous les ans, en université, il y en a plein de bons. Et donc, tous les ans, la draft, il y en a plein de bons. Donc, ce n'est pas une surprise. Mais c'est vrai que cette QV, elle est assez riche. Alors, avant d'entrer dans le détail, je veux dire… Je pense qu'il n'y a pas de Micah Parsons cette année. C'est-à-dire vraiment le joueur top 10, vraiment excellent que… Mais il y a de très bons joueurs et je pense qu'au premier tour, on peut en voir au moins deux et peut-être même trois. Et ensuite, dans le top 50, il y en aura au moins 5-6. C'est une très belle cuvée.
Ouais, tout à fait. On va commencer d'abord par parler justement des deux principales figures marquantes. Alors, la semaine dernière, on avait plutôt centré ça sur nos chouchous. Je pense qu'on va peut-être garder plus ou moins le même angle parce que je crois que nos cœurs penchent d'un côté ou de l'autre sans forcément remettre le talent de l'autre linebacker en question. Je te propose de commencer, Jean-Mi, par le linebacker de Utah, Devin Floyd, fraîchement champion de la conférence Pac-12 avec les Utes, face notamment aux Oregon Ducks de Kevin Thibodeau. Alors, Devin Floyd, juste pour situer, joueur senior, auteur cette saison de…
Devin Lloyd.
J'ai dit quoi ?
Floyd. C'est pas
grave. Pardon. C'est une mauvaise habitude. Donc, Devin Lloyd, linebacker de Utah. Donc, 107 plaquages cette saison, donc 22 pour perte. Je crois que c'est le linebacker le plus efficace dans l'émission, en l'occurrence d'aujourd'hui, dans cet exercice-là. 7 sacs également à son actif et surtout 4 interceptions pour 2 pick-six, 6 passes défendues. C'est un joueur, si vous n'avez pas eu l'occasion de le voir jouer, n'hésitez pas. Là, Jean-Michel, on est en plein sur… un joueur qui a une belle marge de progression, mais qui a déjà un énorme volume de jeu également à son actif.
C'est ça, c'est incroyable. Parce que bon, un linebacker, ce qu'on lui demande en premier, c'est de plaquer. Hein. C'est très bien, il faut plaquer, c'est tout en haut de leur fiche de poste. Mais quand tu peux plaquer derrière la ligne d'engagement, ben c'est encore mieux parce que du coup, tu obliges l'attaque adverse à avoir une tentative longue derrière, quoi. Et Devin Lloyd, c'est vraiment le spécialiste pour ça. Et ce qui est fou, c'est que c'est le spécialiste depuis 3 saisons déjà. Et cette saison-ci, il a carrément doublé ses volumes de jeu. C'est incroyable. 22 plaquages pour perte, c'est énorme. Il joue quand même dans la conférence Pac-12, qui est une bonne conférence. Il affronte de bonnes lignes offensives. Il arrive quand même à les transpercer. C'est vraiment un super joueur, super joueur. Alors, comment il arrive à faire ça? Pour moi, il y a déjà 2 choses. La première, c'est qu'il est rapide. C'est un joueur athlétique qui a un bon jeu de pied, donc il est très rapide. Il a un bon esprit aussi pour être rapide au niveau de l'intelligence, c'est-à-dire que très vite, il sait reconnaître la brèche dans laquelle s'engouffrer. Et puis ensuite, il est intelligent et ça vient de son travail. Je vous renvoie à l'article qui a été publié cette semaine sur le site. C'est un joueur travailleur, c'est-à-dire qu'au lycée, il jouait receveur, il jouait safety et puis il a dû apprendre une nouvelle position, linebacker. Et ses entraîneurs le disent, c'est quelqu'un qui, sur le terrain d'entraînement, a beaucoup travaillé au niveau de son corps, de son physique, pour l'explosivité, la puissance, etc. Mais aussi de très longues heures passées en salle vidéo. Alors, ils le font tous, évidemment, mais après, ils le font tous avec plus ou moins de sérieux. Lui, c'est méga sérieux, c'est-à-dire vraiment un étudiant du jeu. Et c'est ce qui lui permet, justement, de pouvoir si bien lire les attaques adverses et donc d'arriver à s'engouffrer et aller faire un plaquage derrière la ligne d'engagement. C'est-à-dire, il va soit faire un sac du quarterback, ou soit aplatir un coureur avant même qu'il ait passé la ligne d'engagement. Donc, du coup, ça, vraiment, c'est très, très précieux. Et forcément, sa cote, elle va être très élevée à la draft parce que il a tout, quoi. Il est talentueux, il est travailleur, c'est quelqu'un de sérieux. Bah, c'est le rêve pour tout entraîneur NFL, quoi.
Oui, oui, non. Alors, tu l'as dit, c'est vrai qu'en plus, ces petites formations… On va sûrement en aborder quelques-uns dans ce podcast, mais voilà, c'est la fameuse tendance, ça va être linebacker sur 3 tentatives qui sont capables non seulement de générer de la pression, notamment sur des phases de blitz, mais aussi et surtout de briller sur la couverture dans une NFL qui, on ne le cesse de répéter, reste toujours plus orientée sur de la passe, avec toujours des joueurs, que ce soit offensifs et défensifs, toujours plus mobiles, donc face à qui il faut réussir à anticiper le plus rapidement possible avec à la fois des bons instincts et une aptitude vraiment de playmaker hors pair. Et globalement, pour rejoindre ce que tu as dit, c'est vrai que Devin Lloyd remplit quasiment toutes ses cases. Enfin, il voit très peu de points faibles dans son jeu, je ne sais pas de ton côté, mais c'est vrai qu'en l'occurrence, voilà, c'est un joueur qui, tu l'as dit, il a un profil hyper athlétique, 1m93, je crois, si je me rappelle bien avoir vu sur sa fiche. Et malgré ce, il y a eu une excellente mobilité. C'est un joueur très intense au plaquage, donc voilà, et c'est un joueur extrêmement vocal. Il aurait déjà pu s'inscrire à la draft l'année dernière. Il a fait le choix de rempiler du côté d'Utah, donc avec le succès qu'on sait, donc à savoir un titre de conférence et un bowl game important à venir contre Ohio State. En l'occurrence, on ne sait pas s'il jouera la rencontre, mais en tout cas, ça peut être une belle opposition en face. Mais oui, je te rejoins. C'est clair que ça peut. Là, on en parlait un petit peu en off, mais ça peut être un top 15, voire limite top 10. Quand on sait qu'un joueur comme Devin Bush, il n'y a pas si longtemps que ça, était drafté numéro 10, ce ne serait pas incohérent non plus.
Non, surtout qu'il est plus complet que Devin Bush. Hein. Je ne dénigre pas le joueur des Steelers, mais tu vois, on n'a pas encore parlé, enfin, tu l'as un peu évoqué, sa capacité en couverture. Ben oui, sa capacité en couverture, en plus, il a ça. C'est-à-dire, cette année, il a 4 interceptions quand même, le gars. Il est grand, il est longiligne, il a des longs bras, il sait couper les lignes de passe, il sait lire les intentions du quarterback, hein, ancien receveur, ancien safety, donc du coup, le jeu aérien, il connaît bien, il ressent le jeu. Donc voilà, il a tout, quoi. C'est-à-dire qu'il c'est un plaqueur, il plaque derrière la ligne d'engagement, il sait saquer, il sait stopper les coureurs, il est bon en couverture. Donc à partir de là, oui, effectivement, quand tu as un tel playmaker en défense, c'est vrai que j'ai dit qu'il n'y aurait pas de Micah Parsons, parce que Parsons, c'est un tel niveau, il est vraiment exceptionnel, mais il n'est pas loin, hein. Il est vraiment pas loin.
Très clairement. On va parler d'un deuxième joueur alors que j'apprécie tout particulièrement. C'est pas exactement le même profil, mais en tout cas, en termes de polyvalence, on est pas mal aussi. Nakobe Dean, linebacker de Georgia, donc joueur auteur cette saison de 61 plaquages, dont 8,5 pour perte, 5 sacs à son actif, 2 interceptions pour un pick 6, et là encore 4 passes défendues. C'est un joueur qui coche beaucoup de cases, qui n'a pas forcément le physique hyper impressionnant de Devin Lloyd. Maintenant, Jean-Mi, c'est vrai que ça a été souvent souligné dans cette défense extrêmement vantée cette saison de Georgia. C'est le cerveau de ce qui a longtemps été considéré cette saison. Je mets des petites guillemets parce qu'il y a eu un dernier match un peu compliqué contre Alabama. Mais en tout cas, c'est ce qui était considéré même de la part de des coéquipiers eux-mêmes comme le cerveau de la meilleure défense du pays en universitaire.
Ben voilà, c'est ça. Georgia a une défense exceptionnelle. même si, comme tu dis, ils ont un petit peu du mal contre Alabama, mais qui n'a pas de mal contre Alabama. Mais voilà, défense exceptionnelle, et c'est vraiment lui le leader. Parce que de toute façon, on parle de quoi? On parle des linebackers, et qu'est-ce que c'est un linebacker? C'est vraiment le général de la défense. Déjà, de par sa position stratégique, il est en plein milieu des trois rideaux. En plus, en plein milieu, il est vraiment plus au centre. Et c'est lui qui va avoir la vignette verte derrière le casque en NFL, qui va donner les alignements. Toi, tu te mets là, toi, tu te mets là, on fait ça, toi, tu montes, toi, tu descends, etc. Et il sait vraiment faire ça. Il a du leadership, il a de l'intelligence de jeu. Et puis, il est très complet. C'est-à-dire qu'en blitz, il est très, très bon. Pour chasser les coureurs, il a une très grosse vitesse d'intervention. Et alors, moi, je ne l'avais pas encore vu depuis deux saisons. En couverture, c'était franchement moyen. Et puis, cette année, oui, cette année, on a vu qu'il a même progressé en couverture. Donc, du coup, il a tout, quoi. Il a tout, peut-être, sauf ce gabarit idéal. C'est vrai que bon, il fait tout juste un peu plus d'1m80. Voilà, c'est pas énorme. Donc, du coup, dans différents systèmes, en 43, je le vois mal jouer vraiment à l'intérieur. Il sera un peu plus à l'extérieur, j'imagine. Mais bon, c'est quand même c'est une petite limite. C'est parce qu'on chipote, hein, parce que des joueurs comme lui, je veux dire Eric Kendricks ou Roquan Smith, ils ne sont pas énormes non plus. Ouais. Et on voit très bien ce qu'ils font en NFL.
Oui,
et
souvent comparé à Roquan Smith, d'ailleurs. Ouais. Voilà. En Georgia également.
Voilà. Et Nakobe Dean, il est vraiment de cette crampe-là. Donc, lui, j'ai aucun doute non plus de sa réussite future en NFL. Et il vaut largement un premier tour de la draft.
Ouais, c'est... Oui, oui, très clairement. Je pense qu'on est... On est un peu dans les mêmes eaux. Alors moi, c'est vrai que j'ai un petit faible pour lui, mais je le mettrais peut-être légèrement en dessous de Devin Lloyd, on va dire, dans la hiérarchie des linebackers. Mais oui, je pense que très franchement, s'il n'y a pas de souci de blessure constatée entre-temps, ça peut largement avoir un profil d'un top 20 à l'orée de la prochaine draft. Et voilà, tu l'as dit, c'est vrai qu'il y a une progression. Il n'y a peut-être pas une production dingue, mais par rapport aux autres linebackers qu'on va aborder sur cette émission, il y a une donnée à prendre en compte, c'est que Georgia s'est tellement baladé sur la majeure partie de ses matchs que c'est des stats quasiment à prendre sur trois quarts temps pour la majeure partie des rencontres qu'il a disputées, quoi. Donc voilà, ça démontre encore une fois tout l'impact qu'il a eu dans une défense de Georgia qui tournait beaucoup, mais dont il est toujours resté globalement le chef d'orchestre. Donc c'est sûr que ça ne peut que donner des idées à des coordinateurs défensifs en NFL. On est sur un profil, on va dire peut-être un plafond un peu moins élevé que Devin Lloyd, mais le plafond, il a l'air déjà tellement, tellement haut que ça peut être un joueur performant dès sa saison rookie largement.
Oui, c'est ça. Puis de toute façon, les statistiques, alors c'est important, hein, mais c'est vrai que celles de Nakobe Dean sont relativisées. Bon, attention, on a fait des bonnes. Il en a 60 et quelques plaquages, 5 sacs, etc. C'est des bonnes statistiques. Mais je veux dire, quand tu vois la défense de Georgia, pour que Nakobe Dean il puisse plaquer un coureur, il faut déjà que le coureur il ait passé la ligne d'engagement. Sauf que je vais pas anticiper l'émission sur les défensifs tackle, mais Georgia, pour passer, déjà, c'était impossible. Donc, du coup, il avait plus rien à plaquer.
Oui, en effet, oui. Bon, ça a été mis en avant le fait qu'en effet, il avait un entourage qui lui permettait aussi de briller encore plus. On va voir avec certains profils que même en ayant un bon casting autour, ça peut quand même poser quelques questions. On va l'aborder d'ailleurs tout de suite avec le tiers 2, ce qu'on pourrait appeler le tiers 2. Tout de suite avec les trois linebackers suivants.
Actu, analyse, résultat, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com.
On va rester dans la conférence SEC, on va parler notamment d'Alabama. Alors, je sais que c'est un profil qui nous a pas mal divisé. Le profil de Christian Harris, linebacker d'Alabama, donc je vais retrouver les stats tout de suite. C'est 69 plaquages cette saison, dont 7,5 pour perdre, 2 sacs et demi et 3 passes défendues pour le joueur junior, donc numéro 8 d'Alabama. Bon, on ne va pas découvrir énormément de choses, Jean-Mi, par rapport aux backers d'Alabama. On sait que c'est toujours des profils extrêmement, extrêmement athlétiques, extrêmement puissants, rapides. Là, en l'occurrence, Christian Harris, ça remplit pas mal de données. Alors, dis-nous un petit peu ce que tu en penses avant que je puisse émettre éventuellement quelques doutes.
Ok, ben moi, je trouve que c'est un joueur très athlétique. Déjà, il a beaucoup de vitesse, que ce soit pour aller blitzer ou que ce soit même en changement de direction. Quand un running back fait un cut de l'autre côté, ben, il est capable de lui aussi de se rediriger pour aller le suivre. Ensuite, c'est un leader sur le terrain. Et puis, il apporte aussi en couverture. C'était lui aussi un receveur au lycée. Donc, voilà, il comprend aussi le jeu aérien. Alors, c'est vrai qu'il n'est pas toujours décisif. Mais moi, ce que j'aime bien chez lui, c'est qu'en fait, il est très constant. Alors peut-être qu'une des limites que moi je vais mettre, on verra la tienne, mais c'est qu'on s'attendait à ce que cette année, il explose vraiment, il devienne le linebacker numéro un. Et non, ça, on a vu ça de Nakobe Dean, par exemple, pas de Christian Harris. Mais par contre, tu parlais un peu de ses stats tout à l'heure. Ben, je veux dire, en 2019, il a fait 7,5 plaquages pour perte. En 2020, il en a fait 7. Et cette année, il en est à 7,5. Donc voilà, c'est quelqu'un qui, ça fait 3 ans, qui dans une défense d'Alabama, dont on sait qu'elle est très bien coachée, forcément, Nick Saban, bon, il coache bien toutes les positions, mais c'était un ancien entraîneur des linebackers au départ, Nick Saban. Donc vraiment, c'est une position sur laquelle il met une emphase et il y a une expertise. Et ce mec, depuis 3 ans, il est très régulier là-dedans. Donc du coup, pour moi, c'est une sorte de valeur sûre. Ce n'est pas le top joueur de la QV de linebacker, mais pour moi, c'est une valeur sûre.
Bah écoute, je te rejoins sur le côté constance, notamment sur l'ensemble des exercices. Je ressens pas spécialement la constance sur l'ensemble de la saison. On a vu certaines parties, en effet, où c'était un petit peu plus délicat. Et certaines parties, d'ailleurs, et ça rejoint un petit peu ce que tu disais sur son côté leader, certaines rencontres, justement, où on pouvait s'inquiéter, justement, du fait que Bama ne se soit pas rebellé un petit peu défensivement. Je pense à 2 matchs en particulier, hein, qui sont peut-être les 2 matchs où la défense de Bama a forcément le plus souffert. C'est à Florida et à A&M, un match où, d'une part, Alabama s'est fait un peu peur en deuxième mi-temps, et d'autre part, où Alabama a subi sa seule défaite de la saison. Donc voilà, c'est sûr que réduire sa prestation à 2 ou 3 rencontres dans l'année, c'est un peu réducteur. Après, c'est vrai que, en fait, c'est plus de la chose avec laquelle j'ai le plus de mal concernant Christian Harris, c'est ce côté frustration. C'est-à-dire qu'il peut très bien y avoir des tentatives où on va le voir briller. Tu l'as dit, excellent en blitz, en poursuite. Enfin, voilà, un joueur qui sait faire énormément de choses et sur 1 ou 2 actions derrière. Il va rater quelque chose de relativement simple, un plaquage. Je suis pas aussi emballé que ça sur la couverture. Et d'ailleurs, je trouve qu'il a les mêmes défauts. Alors, on l'avait pas forcément mis dans les joueurs de cette émission, mais je trouve qu'il a beaucoup de défauts qui ressemblent un petit peu justement à son collègue ancien joueur de Tennessee, Henry Tohoto. C'est-à-dire que en termes de profil athlétique et de capacité à être efficace et à être playmaker. Il n'y a pas grand-chose à retirer. Après, je trouve qu'il y a quand même une inconstance chronique de leur part qui est peut-être un peu inhabituelle, ou en tout cas qui se ressent un peu plus, je trouve, ces dernières années du côté des linebackers du Crimson Tide.
Oui, je te rejoins. Je suis d'accord avec toi aussi par rapport à ça.
Mais après, attention. Hein, alors,
mais voilà.
On en avait parlé. Alors moi, j'étais plus sur un début 3e tour. Toi, tu le situerais où, Christian Harris?
Ah, facile au deuxième.
Facile au deuxième.
Ouais, pour moi, facile au deuxième. C'est-à-dire que là, on est en train de parler de limite d'un joueur qui est très bon. Voilà.
Oui, bien sûr.
Le truc, c'est qu'on se projette sur vraiment non seulement le titulaire NFL, parce que lui, il sera titulaire NFL, mais on se projette sur un éventuel joueur d'impact vraiment au niveau NFL qui, dans 2 ans, sera top 10 de sa position, etc. Donc, c'est pour ça qu'on se dit, il y a peut-être certaines limites, peut-être qu'il ne sera pas un pro bowler, etc. Machin. Mais non, c'est un super joueur. Moi, franchement, une équipe qui le prend au 2e tour, je dis, ben, bien joué. Hein.
Un mot rapide sur Tohoto, du coup.
Bah alors Tohoto, il a un profil, je trouve, un petit peu moins physique, un petit peu moins. Mais par contre, il a énormément de vitesse. Moi, c'est un linebacker qui me plaît beaucoup. Je le situerais au moins 1 tour plus loin parce que justement, je le trouve un petit peu moins complet, puis un gabarit moins imposant. Ça sera quand même la NFL. Il aura des adversaires vraiment difficiles à bouger. Mais par contre, il a une vitesse d'intervention qui est extraordinaire. Alors, à la limite, lui, puisque donc on peut en dire un mot, les joueurs ont jusqu'au mois de janvier pour se déclarer à la draft, lui, peut-être que ça serait bien qu'il reste encore une saison à Alabama pour vraiment être le leader de cette défense-là. Ouais. Mais si jamais il se présente, moi, je pense qu'il a une chance d'être drafté, ne serait-ce que par rapport à sa vitesse. Voilà, il a une vitesse d'intervention qui fait que ça peut être que précieux. Voilà.
On va parler d'un deuxième joueur dont je vais essayer de retrouver la fiche rapidement, Brandon Smith, linebacker de Penn State. Alors, je crois qu'on est un peu... Voilà. Divisé là-dessus, je ne suis pas sûr, hein, pas totalement. En tout cas, c'est un joueur qui ne rend pas indifférent, on va dire. C'est un profil, là aussi, en termes de profil athlétique, on est pas mal servi. Cette saison, c'est quand même 81 plaquages, dont 9 pour perte, 2 sacs et 5 passes défendues. Donc, sur le papier, c'est quand même... voilà, on voit qu'il y a une certaine production dans une énorme défense comme celle de Penn State. Je vais mettre tout de suite les pieds dans le plat. Moi, ce qui m'embête un peu avec Brandon Smith, c'est que voilà, c'est un peu le même profil que des. Enfin, physiquement, c'est un peu le même profil que Devin Foy, c'est-à-dire c'est quand même une belle armoire à glace. Je trouve quand même que dans une grosse défense, au-delà de la simple production des plaquages, c'est un joueur dont on peut attendre beaucoup, beaucoup plus et dont on a vu quand même assez peu encore à l'heure où on se parle.
Oui, ben c'est ça, exactement. C'est-à-dire que Brandon Smith, une fois qu'on a vu la fin de la saison 2020, en se projetant sur la saison 2021, on se dit, voilà, lui, ça va être vraiment un monstre au poste de linebacker. Il a vraiment tout pour réussir. Et donc, tu as rappelé ses stats 2021, il a fait une bonne saison, même une très bonne saison. Mais on attendait mieux. Voilà, on attendait plus. Après, ceci dit, voilà, il est grand, il est longiligne, il est costaud, il a beaucoup de vitesse, il a très bons angles d'attaque, c'est un joueur.
Mais tu vois, par exemple, le paradoxe, c'est que c'est typiquement le genre de profil physique où tu te dis, c'est un mec, pour perturber le quarterback adverse, ça va être un régal parce que, voilà, en espèce de position linebacker slash safety, ça va être un régal. Sauf que là, pareil, en termes de couverture, je ne l'ai pas trouvé flamboyant. En plus, dans une conférence Big Ten, qui n'est pas non plus la plus réputée pour le jeu à la passe dans le pays, quoi.
Oui, c'est ça, en fait. C'est qu'on a l'impression qu'il n'a pas montré tout son potentiel. Voilà. Alors, est-ce que c'est un problème lié à Penn State ? En plus, Penn State, ils ont quand même beaucoup de bons linebackers. À ses côtés, il y avait Curtis Jacobs, il y avait Elix Brooks. Donc, il y avait aussi d'autres personnes qui faisaient le boulot, quoi. Et donc, il était assigné sur une partie du job à faire. Et si, à la limite, il avait été seul, peut-être dans une fac un peu plus modeste, bah, peut-être qu'il aurait fait encore plus de choses. C'est peut-être ça aussi qui joue, je ne sais pas. Après, moi, je pense que Brandon Smith, c'est typiquement le genre de joueur qui va marquer des points au combine. Oui. Parce qu'il a des qualités athlétiques extraordinaires. Et donc, je ne parle pas simplement du sprint sur le 40 yards, mais tous les autres ateliers. Je veux dire, les cones où il faut bouger latéralement, les jumps aussi, que ce soit vertical ou horizontal. Enfin, il a des qualités athlétiques incroyables. Et donc, moi, je pense qu'il va marquer des points et qu'un staff NFL va dire, bon, on a vu déjà de bonnes choses à Penn State. Vu ses qualités athlétiques, avec notre bon coaching, on va pouvoir en faire un joueur super. Et c'est possible.
Voilà. De toute façon, c'est du, en exagérant un petit peu, c'est du joueur drafté sur du fantasme. C'est un peu un anti-Nakobe Dean, dans le sens où, à mon sens, de ce que j'en ai vu en tout cas, le plafond me paraît peut-être pas suffisamment élevé, mais c'est sûr que des équipes NFL vont se dire, il y a une marge de progression qui est telle avec ce joueur-là que forcément, je le vois pas descendre plus bas qu'un deuxième tour. Encore une fois, si on met de côté d'éventuels problèmes de blessures qui arriveraient ou seraient découvertes en cours de route. Mais oui, c'est aussi ce qui nous amène à le mettre dans le tier 2. C'est peut-être pas forcément d'un point de vue talent, parce que par rapport au reste du plateau, c'est clairement pas celui qui m'a le plus bluffé. Mais oui, c'est quasiment sûr qu'il y a des équipes NFL qui vont pas rester indifférentes à son talent et son potentiel à l'échelon supérieur.
Ah oui, quand même, oui. On a bien vu l'année dernière un joueur comme Jamin Davis. Avec Kentucky, il avait fait une saison incroyable. Lui aussi, un joueur très athlétique. Et puis finalement, il s'est retrouvé au premier tour. Alors, je ne suis pas en train de dire que Brandon Smith sera un premier tour.
Ça peut, mais ça peut.
Bien sûr. Mais il a quand même, lui, il fait ça à Penn State. Ça fait 2 ans qu'il fait de bonnes saisons. Et puis voilà, il a des qualités athlétiques incroyables. Donc, oui, ça peut quand même. Hein. Très bon joueur.
Tout à fait. On termine ce tier 2 avec un autre joueur de la conférence Big Ten. Un joueur, alors je ne vais pas dire sorti du chapeau parce qu'il était déjà plus ou moins dans la rotation l'année dernière, mais il a vraiment explosé en 2021. Léo Chenal de Wisconsin, 106 plaquages dont 17 pour perte, 7 sacks et 2 fumbles forcés au cours de cette saison. Alors Wisconsin, ça a souvent soufflé le chaud et le froid en 2021, mais pas forcément en défense. Et pour le coup, c'est le meilleur plaqueur de l'équipe, un des meilleurs sackeurs. C'est un homme qui sait faire pas mal de choses. Et pour le coup, on sort peut-être un peu du profil linebacker classique, j'ai envie de dire, avec Léo Chenal.
Oui, c'est ça. Ouais. Moi, ce que j'aime bien quand j'évoque ce joueur, c'est parler un petit peu d'un gadget en défense. Gadget dans le sens où sur un jeu, tu vas lui dire « surveille ce que fait le quarterback » et puis en catch-attaque, tu fais du blitz. Ou alors sur le jeu suivant, il va déborder la défense par l'extérieur, tel un edge. Alors, ce ne sera pas un edge tout le temps, mais tel un Micah Parsons qui en NFL ne joue pas edge, mais qui est capable de le faire sur séquence, eh bien, Léo Chenal, il pourra le faire aussi. Après, c'est quelqu'un qui est costaud, qui est puissant, qui plaque très bien les coureurs adverses. Et ça peut être un gadget que tu déploies comme ça, suivant les jeux, suivant les adversaires, suivant, voilà. C'est quelqu'un quand même qui est bien robuste, bien costaud. En plus, tu l'as dit quand même en conférence Big Ten, 106 plaquages, donc 17 pour perte, c'est énorme. Bon, de toute façon, c'est une famille de costauds. Hein. Son frère John, il joue au fullback à Wisconsin. Voilà. Après, la limite avec Léo Chenal, c'est il faudra pas lui demander de couverture. Voilà. C'est pas un joueur qui peut faire de la couverture, lui, c'est pas bon. Du tout. Mais sinon, pour tout le reste, très, très, très efficace.
C'est un peu ce que j'allais te dire. C'est ce qui risque de limiter son impact, c'est qu'on n'est pas sûr du tout que ce soit un linebacker sur 3 tentatives. Et forcément, par définition, ça va forcément mettre en difficulté, on va dire, sa stock au niveau de la position des linebackers. Mais là, on est clairement sur un solide deuxième tour potentiel. D'un point de vue profil, il me rappelle quand même beaucoup justement Zach Bone, qui a été drafté il y a quelques années en provenance de Wisconsin, qui avait cette aptitude à être extrêmement dangereux sur pass rush, parce que Léo Chenal, il apporte moins de pression, par exemple, que son coéquipier Jack Sanborn. Mais quand il met la pression, il met la pression. Et tu vois que d'un point de vue vitesse, tu parlais du combine pour Brandon Smith. Je serais très curieux de voir ce que ça va donner lors du combine pour Léo Chenal, si bien sûr il se présente cette année, parce qu'il a encore la possibilité de revenir l'année prochaine. Puisqu'on voit vraiment qu'il y a une vitesse et surtout, je trouve, une réactivité une fois qu'il a saisi où se trouvait le ballon. C'est vraiment assez déroutant. Et là, on est vraiment sur du profil vraiment de linebacker, playmaker. Et ouais, comme tu disais, ça peut être un excellent wheel, ou en tout cas un joueur capable de blitzer efficacement et d'être redoutable en termes de plaquage, parce qu'il a le physique et la vitesse pour vraiment réussir à faire tout ça. Après, voilà, est-ce que vraiment la couverture ne sera pas trop rédhibitoire ? Ça va être un élément à prendre en ligne de compte. Est-ce que tu veux rajouter un petit mot sur Jack Sanborn également, qu'on n'a pas abordé du côté de Wisconsin ?
Ben, c'est son coéquipier, et lui aussi c'est un bon joueur, mais qui est un petit peu plus limité. Et je pense que justement, si Chenal, c'est vraiment le joueur à faire des plays, vraiment le playmaker, quoi, qui va faire des différences dans un match, Jack Sanborn, c'est plutôt le joueur régulier. Voilà. C'est un bon plaqueur, il a de bons instincts pour défendre la course, mais c'est typiquement pour moi le linebacker que tu peux prendre au 5e ou 6e tour, qui va apporter dans une rotation, mais qui n'a pas cette faculté qu'a Léo Chenal de vraiment te décider d'un match sur 2-3 jeux.
On a fait le tour en tout cas sur ces trois profils du tiers 2. On termine avec la troisième partie de cette hiérarchie des linebackers.
Actu, analyse, résultats, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com.
On l'a dit, il y a beaucoup de monde. Hein. La conférence SEC et la conférence Big Ten ont été extrêmement intéressants. Ce n'est pas un hasard, parce que justement, on va de nouveau aborder ces conférences à l'occasion de cette troisième partie. Restons, si tu le veux bien, dans la Big Ten, Jean-Michel. On va parler d'un joueur que Victor Roulier adore tout particulièrement. Il a bon goût, hein, globalement. Jack Campbell, linebacker d'Iowa, 126 plaquages, dont 3,5 pour perte. 6 passes défendues, 2 interceptions, dont un pick six, deux fumbles recouverts pour un TD. On est sur du profil linebacker d'Iowa, mais alors on parlait de marge de progression tout à l'heure pour certains, notamment d'un point de vue couverture. Il y a eu quand même une énorme transformation pour un Jack Campbell qui, on rappelle, n'était même pas titulaire sur la première partie de la saison 2020.
Oui, c'est un joueur qui est incroyable, incroyable. Déjà, ce qui est incroyable, c'est quand tu le vois sur le terrain, tu te dis, mais c'est qui ce gars ? C'est un defensive end ? C'est quoi ? Parce qu'il fait 1m96, 110 kilos. Je veux dire, tu n'as pas de linebacker qui font cette taille-là. Il est énorme. Je veux dire, il est plus imposant qu'Anthony Barr, par exemple, qui est déjà assez rare au niveau du gabarit en tant que linebacker. Il est immense, il est énorme. Alors, ben justement, ce n'est pas une surprise, c'était un basketteur, et puis c'était le type de basketteur à lutter dans la peinture, hein, aller au rebond. Voilà, ce n'était pas un shooter à 3 points. Donc, c'est ce type-là de joueur qui est arrivé à Iowa. En fait, c'était plutôt pour jouer tight end, surtout que Iowa, c'est une très bonne université pour les tight ends. Et puis finalement, il s'est retrouvé en défense. Mais voilà, il est très grand, il est athlétique, il a des bons pieds. Allez, son passé de tight end, son passé de basketteur. Et puis moi, ce que j'adore, c'est que c'est un guerrier. C'est un guerrier, il est toujours au combat, tout le temps. Tu le vois tout le temps là, agresser le coureur, agresser la poche. C'est une véritable machine à plaquer. Et puis voilà, il a une grosse marge de progression pour apporter aussi en couverture. Parce que déjà, ancien tight end, il comprend un petit peu le jeu aérien. Cette année, on l'a vu faire 2 interceptions. Il a défendu 6 passes en tout. Je veux dire, il est très grand, il a une grande envergure. Il peut soit couper les lignes de passe, ou soit juste aller couvrir le tight end. En plus, c'est vraiment quelqu'un qui, justement, tu peux le mettre sur un côté, mettons dans une 43, et puis il va aller à la lutte avec le tight end pour se défaire des blocs. Il est suffisamment costaud pour le faire, ou alors suivre le tight end pour le défendre. Donc du coup, ouais, pour moi, c'est quelqu'un qui est déjà très bon et qui a une grosse marge de progression. Franchement, ça vaut bien un troisième tour de la draft minimum.
Oui, je pense qu'on est facile dans les 3 premiers tours. Après, ça dépendra des goûts et des couleurs des différentes franchises. Là pour le coup, tu as globalement tout dit. En effet, c'est physique, c'est intelligent, c'est technique. Ce qui va le desservir, c'est peut-être qu'il soit un peu moins athlétique que le reste du plateau, mais encore une fois, déjà, vu sa mobilité avec le gabarit que tu évoquais tout à l'heure, c'est déjà énorme, et en effet, ça va jouer forcément en sa faveur. Si bien entendu, là encore, il confirme, parce que je crois qu'il est seulement junior
lors de cette
saison 2021. Voilà, c'est juste pour recontextualiser, parce qu'après qu'on ne nous dise pas, vous l'avez annoncé à la draft, alors qu'il n'y sera pas. Mais en tout cas, voilà, il y a énormément d'éléments qui font que Jack Campbell est quand même devenu un pion essentiel de cette défense d'Iowa. Pour recontextualiser, les Hawkeyes cette année ont disputé notamment la finale de conférence, ont été jusqu'au bout en lice pour avoir au moins une fiche invaincue. Enfin, en tout cas, une première partie de saison, on s'en rappelle, assez mémorable, notamment grâce à la défense. Et Jack Campbell a été le principal instigateur de cette défense hyper intimidante. Donc voilà, ça paraît pas forcément illogique de le voir parmi les principaux linebackers nommés et potentiellement, comme tu l'as dit, draftable au pire le vendredi soir.
Ouais.
On enchaîne à présent, on va aborder deux derniers profils qui viennent de la conférence SEC. On va commencer par Damon Clark, linebacker de LSU. Alors, je sais qu'il y avait un peu de désaccord là-dessus, un léger désaccord, moins marqué que sur Christian Harris, un léger désaccord sur Damon Clark, donc linebacker de LSU. 135 plaquages cette saison, je crois que c'est le meilleur plaqueur de la saison universitaire. Dont 5,5 pour perte, 3 passes défendues, 1 interception au compteur. Alors, il n'a pas forcément eu la même réussite, le même casting autour de lui que certains autres joueurs dont on a parlé tout à l'heure. LSU, ça a été très compliqué cette année, que ce soit en attaque, un peu moins en défense, mais quand même malgré tout. Par contre, Damon Clark, voilà, de par les stats que j'évoquais, c'est un joueur qui sait faire énormément de choses. Et moi, ce que j'adore avec ce joueur-là, c'est que c'est un joueur qui peut être un playmaker et qui peut être utilisable sur 3 tentatives.
Oui, c'est un très bon joueur, il n'y a pas de souci. C'est vrai que, alors, on avait un petit désaccord, c'est pas dans le... Toi, tu l'avais plus haut que moi, mais je veux dire, c'est pas que je ne le reconnais pas de talent, il a beaucoup de talent. Mais
oui, c'est vrai que tu préférais Christian Harris, enfin, logiquement, je ne suis pas totalement en désaccord là-dessus. Harris te paraissait plus légitime à être peut-être mieux considéré que Clark.
Ouais, c'est ça, exactement. Je préfère Harry. Enfin, il me donne plus d'assurance, moi, Harry, que Damon Clark. Mais bon, attention, si on en parle là aujourd'hui, c'est que on en parle comme d'un choix du top 100, quoi. Je veux dire, c'est un très bon joueur, Damon Clark. Il n'y a pas de souci. Mais tu vois, quand on parle des statistiques, par exemple, si on peut relativiser celle de Dean ou celle de Harry, ben, celle de Damon Clark à 135 plaquages, c'est aussi parce qu'il y avait Degen dans sa défense devant lui. Je veux dire, donc forcément, il est obligé de tout faire. Alors, attention, il a fait et très bien fait parce que il n'y a personne devant, mais s'il n'est pas bon, ben, il n'aurait rien fait non plus. Donc, c'est un très bon joueur. Mais après, c'est vrai que c'est cette énorme production, c'est aussi parce qu'il était un petit peu tout seul. Mais bon, après, c'est quand même un joueur, voilà, il porte le numéro 18 à LSU, c'est pas pour rien. Le numéro 18 à LSU, il est toujours donné un joueur qui est bon sur le terrain, qui a un très bon état d'esprit en dehors, qui représente vraiment la fac. C'est quelqu'un qui sait faire beaucoup de choses. Je veux dire, déjà, il a beaucoup d'expérience, ça fait 3 ans qu'il est titulaire. Je veux dire, il peut poursuivre les running backs, il peut faire un petit peu de blitz. Alors, en couverture, je le trouve pas fantastique, mais c'est quelqu'un que tu pourras mettre dans une 3-4 à l'intérieur, ou tu pourras mettre un petit peu à l'extérieur dans une 43. Et c'est un bon joueur, hein, ce Damon Clark.
Oui, je regardais. Il est un peu plus petit que Jack Campbell, mais les dimensions physiques ne sont pas non plus si différentes que ça. Donc, on est vraiment sur là aussi. Enfin, moi, ce qui me fait dire ça, c'est que oui, en effet, en termes de gabarit physique, il n'y a pas une énorme différence. Et je trouve que oui, il y a un profil qui est beaucoup plus athlétique. Donc là encore, c'est pareil, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Après, c'est le goût et les couleurs. Il y en a sûrement qui vont aller plus vers Jack Campbell, d'autres qui vont plus aller vers Damon Clark. Mais en l'occurrence, oui, je trouve que tu l'as dit tout à l'heure, voilà, il y a une capacité à faire énormément de choses. Et oui, alors c'est sûr qu'en effet, du côté d'LSU, forcément, au-delà de sa présence, il n'y avait pas non plus une énorme... il y avait quand même une certaine inexpérience globalement autour de lui. Mais encore une fois, c'est un joueur que je trouve très propre. C'est un joueur qui rate très peu de plaquages. Je crois que c'est celui qu'on rate le moins en termes de pourcentage sur les joueurs qu'on a abordés dans cette émission. Alors que tu l'as dit, fallait quand même aller au turbin. Donc voilà, c'est vraiment ce qui fait que pour moi, là aussi, je serais quand même étonné qu'il descende plus bas que les 3 premiers tours, sur la simple considération de la production, j'entends. Donc voilà, ça me paraissait important de mettre à l'honneur sur cette émission-là. On va terminer peut-être la troisième partie en abordant Zakobi McLain, linebacker d'Auburn, qui a réalisé cette saison 95 plaquages, dont 8 pour perte. 2 sacs et 6 passes défendues. Joueur qui est dans les titulaires du côté des Tigers depuis un petit moment maintenant, hein, depuis la saison 2019 en l'occurrence, et en l'occurrence dans une défense d'Auburn qui est marquée par pas mal de prospects intéressants. On aura peut-être l'occasion d'y revenir sur d'autres podcasts. Ça a été un des plus convaincants, en tout cas là encore l'un des plus impliqués d'un point de vue volume de jeu.
Ouais, ben c'est ça, volume de jeu, Zakobi McLean, voilà. C'est un joueur qui est productif à chaque match, à chaque saison, il fait des plays. Alors c'est vrai que quand tu le vois, il ne paye pas trop de mine, il manque un peu de gabarit, mais par contre quand tu le vois aller au placage, tu te dis « oh putain, ah ouais d'accord, ouais. Ah ouais, il n'hésite pas, il va au contact, hein, il n'y a pas de problème hein. ». Tu vois, on parlait du gabarit de Damon Clark ou de Jack Campbell, non, lui, Zakobi McLean, c'est beaucoup plus petit, etc., mais alors attention, il y va. Hein.
C'est un taureau.
Voilà, exactement. C'est un taureau. Il chasse et puis il défonce. C'est ouais. Après, bon, voilà, est-ce qu'il va porter en couverture? Je ne suis pas sûr, même si on l'a vu quand même progresser cette année. Il a fait des meilleures choses en couverture. Après, il a un petit peu des limitations physiques, on vient de l'évoquer. Donc, du coup, je pense que lui, ça ne sera pas forcément un linebacker pour le top 100. Ce sera peut-être un petit peu après. Mais par contre, c'est quelqu'un de très précieux parce qu'il va au charbon. Et tu sais qu'à chaque match, il va être régulier, il va t'apporter quelque chose dans la rotation. Donc, si tu prends ce gars au quatrième ou au cinquième tour, ben voilà, tu sais que tu as un bon joueur qui pourra aussi sans doute t'apporter une équipe spéciale, mais qui t'apportera aussi dans une rotation. Je veux dire, tu le mets sur un côté dans une 43, puis hop, c'est parti, laisse-le chasser les coureurs, une sorte de sous Matt Milano à la limite. Mais je veux dire, voilà, quelqu'un comme ça qui va être dans la poursuite et qui va être très efficace.
Oui, ça peut être très clairement le même profil, en effet, joueur très… très besogneux, tu l'as dit, hein, en défense ou équipe spéciale. Voilà, je pense que c'est un joueur qui peut facilement, je pense, au terme de quelques saisons, devenir un capitaine défensif ou un joueur vraiment très important au sein du vestiaire. Et voilà, et d'un point de vue production, c'est sûr que ça peut être limitant le fait d'être potentiellement sur deux tentatives, parce que tu l'as dit, en termes de couverture, c'est pas parfait. C'est pas le joueur qu'on a le plus vu en termes de pass rush dans une équipe d'Auburn qui avait peut-être pas forcément besoin de l'utiliser plus que ça. Il faudra voir éventuellement s'il arrive à développer ce domaine de jeu, vu qu'on voit qu'il a une certaine vitesse malgré tout. Mais voilà, c'est sûr qu'il y a quelques limitations supplémentaires par rapport à d'autres profils qu'on a abordés, mais on reste quand même dans un profil de linebacker très complet. Bon, allez, moi, je t'avoue, on parle de quoi, d'un fin troisième, début quatrième peut-être aujourd'hui?
Ouais, moi, je dirais pas avant le quatrième, mais bon, après, on ne sait jamais. Et pourquoi je dis pas avant le quatrième, c'est même pas tellement le joueur, parce qu'il va produire, on le sait, il va produire. Voilà. Lui, il a peut-être pas un plafond très élevé, mais il a un plancher déjà très solide, il va produire. Ouais. Pourquoi je pense pas avant le quatrième? Parce que c'est la position aussi qui joue un petit peu contre lui. Je veux dire, c'est un linebacker qui est pas un linebacker pass rusher, qui est pas un linebacker qui apporte énormément en couverture. Donc, du coup, c'est un linebacker que tu vas prendre, moi, je pense, à partir du quatrième tour, pas avant. Mais c'est juste par rapport aux valeurs de la position, c'est tout. Sinon, c'est un bon joueur.
Ouais, il y a de fortes chances. On va terminer du coup avec nos sleepers. C'est tout de suite donc avec nos bonnes affaires de cette classe de backers.
Actu, analyse, résultat. Toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com.
Commencer par un linebacker d'Arkansas. On reste encore et toujours dans la conférence SEC. Belle saison pour les Razorbacks à l'image de leur linebacker Grant Morgan, auteur de 96 plaquages, dont 7 pour perte, 3 passes défendues et une interception pour le backer d'Arkansas. On parlait de profil assez petit pour Zakobi McLean, c'est le cas également de Morgan. Ça ne l'a pas empêché d'avoir un énorme impact dans une défense qui continue d'être de plus en plus intimidante dans la conférence phare.
Voilà, c'est ça, exactement. Il n'est pas très grand, mais il est très productif. C'est pour ça que je voulais en parler. Alors, au départ, j'ai failli parler de son coéquipier parce qu'il a un nom qui me fait trop délirer, Bumper Pool. Et en plus, il n'est pas mauvais. Mais je me suis dit non, Grant Morgan, quand même, il apporte beaucoup. C'est quelqu'un qui a 5 saisons universitaires et pas n'importe où. Arkansas, c'est la SEC quand même. Donc, il a beaucoup de vécu, c'est-à-dire de situations de jeu. Il en a vu plein. Il a à chaque fois été productif. C'est un bon plaqueur. C'est quelqu'un que tu mets dans une rotation. Il y a une équipe spéciale, il va t'apporter. C'est un capitaine d'équipe. C'est quelqu'un qui a une marge de progression en couverture aussi qui est intéressante. Voilà. Et puis, c'est ce caractère aussi qui joue pour lui. Moi, je trouve, c'est aussi pour ça que je voulais en parler, parce que, comme on l'a dit au début de l'épisode, les linebackers, il y en a beaucoup. On aurait pu parler de Darian Beavers de Cincinnati, que j'aime beaucoup, de DeMarco Jackson d'Alpatian State, de Terrell Bernard de Baylor ou de Merlin Robertson d'Arizona State. Mais je me ressens sur Grant Morgan. Moi, ce que j'adore aussi, c'est que ce gars, il vient de remporter le Burnsworth Trophy. Alors, qu'est-ce que c'est, ce trophée universitaire? C'est un trophée qu'on remet au joueur qui était welcome au début de son cursus universitaire. Welcome, c'est-à-dire qu'il arrive dans l'université sans bourse. Toutes les universités ont à peu près 80 bourses à distribuer. Il les avait déjà distribuées. Puis quand Grant Morgan est arrivé, ben, il n'y avait plus rien pour lui. Mais il s'est accroché, il a travaillé. Et au final, ben, il a obtenu une bourse. Et puis au final, il est devenu capitaine d'équipe et super productif sur le terrain. Voilà, c'est ce type-là de joueur. Et en plus, je trouve que ce type de mentalité, même si ça peut correspondre à d'autres joueurs aussi sur le terrain, mais ça correspond vraiment au linebacker. C'est-à-dire le gars qui est un bosseur, un gars qui va vraiment travailler son jeu, un gars qui va tout donner sur le terrain et qui va forcément t'apporter quelque chose. Alors, OK, il n'a pas un plancher hyper élevé, mais voilà, c'est un joueur très précieux à avoir dans un 53. C'est pour ça que je voulais parler de Grant Morgan.
Très bien. Bah non, mais je suis d'accord avec toi. Après, voilà, toute la question restera. Pour toi, c'est une belle affaire. À quel tour à peu près?
Oh, c'est on va dire la fin 5e, 6e, hein, c'est pas avant. Parce que ce que je disais pour Zacoby McLean, ça vaut pour lui au niveau du manque de gabarit, au niveau d'une qualité vraiment supérieure. Et en plus de ça, si je compare les deux, si je le choisis entre les deux, je prends Zacoby McLean avant Grant Morgan. Je pense que Morgan, ouais, moi, ça serait plus un 6e tour. Voilà, parce que tu te dis, c'est un capitaine d'équipe, c'est un leader, il va m'apporter en équipe spéciale, il va m'apporter en rotation quand j'en ai besoin dans un match ou si j'ai une blessure. Ouais, moi, je dirais fin 5e et 6e tour.
Tout à fait. Je te rejoins globalement sur tout ce que tu as dit. Je vais quand même parler juste d'une dernière petite d'une énigme, pas du tout, d'un dernier petit sleeper que tu as cité d'ailleurs il y a quelques secondes. DeMarco Jackson, linebacker d'Appalachian State cette saison, c'est 114 plaquages pour 19,5 pour perte. 6 sacs, 5 passes défendues et une interception à son actif. Joueur qui sait faire là encore beaucoup, beaucoup de choses, qui est devenu un des leaders de cette équipe d'Appalachian State, excellent notamment sur le run stop, capable également de générer de la pression. Donc pour le coup, il y a peut-être un peu de déchets malgré tout. Alors c'est un peu en paradoxe avec ce que je vais dire, à améliorer notamment sa production sur la couverture, comme pas mal de profils mine de rien, surtout qu'encore une fois la Sun Belt c'est pas spécialement réputé pour développer le jeu à la passe. Je pense que c'est ce qui va lui fermer quelques portes. Mais tu vois, tu parlais de Zacoby McLean tout à l'heure. Alors, DeMarco Jackson est un poil plus grand, mais pas non plus. Voilà, ça doit jouer à 2-3 cm. Mais oui, je pense qu'il y a à peu près les mêmes freins éventuellement à une draft suffisamment haute. Là, pour le coup, on parlait d'un potentiel 4e tour. C'est typiquement le genre de tour où je peux voir un DeMarco Jackson drafté parce que en effet, on sait que ça va être un joueur très vocal qu'on pourra utiliser très rapidement sur l'équipe spéciale et qui peut à terme s'intégrer rapidement dans la rotation. Et ça me paraîtrait une très très bonne affaire pour l'équipe qui le récupérera en provenance donc des Mountaineers.
Ouais, j'ai rien à rajouter. Ouais, très bon joueur.
Très bien. Bah écoute, voilà ce qu'on pouvait dire en tout cas sur cette classe de backers. Je te remercie encore Jean-Mi d'avoir été en ma compagnie. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission où a priori tu feras équipe avec Victor. J'ai plus le poste en tête, hein. Malheureusement.
Les tackles offensifs.
Ce sera les tackles. Oh, bah oui, c'est vrai, on en avait parlé la dernière fois. Oui, c'est vrai. Les tackles offensifs, il y a pas mal de choses à dire. Avec les mains violentes, ne ratez surtout pas ce rendez-vous. On va se régaler et en prendre plein la tronche. Merci encore, Jean-Mi. N'oubliez pas donc que l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com. Je rappelle également ton Twitter, Zappa1309, pour te suivre et t'interpeller sur les réseaux sociaux. Yellow Radio Zap pour moi sur Twitter également. Et puis rendez-vous donc dans quelques jours, notamment pour le débrief de la dernière semaine. On en a combien? 14 ouais. Semaines de saison régulière NFL. Salut à tous et à très vite sur Touchdown Actu.
Ciao tout le monde.
Analyse, fromage et jeu de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto, les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Beastmode pour Marshall Lynch, Procash Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin.